Et on prend le large à 8h22, car ces derniers mois, on a trop été enfermés. Montée à bord ce matin de l'expédition Tara. La goélette scientifique est amarrée en ce moment sur la Seine, à Paris. Et deux membres de l'équipage ont fait escale dans notre studio. Le capitaine d'abord, bonjour Martin Herthaud.
Bonjour.
Et à vos côtés, Romy Antinger. Vous êtes responsable de ce qu'on appelle le plaidoyer. Vous allez nous raconter ensuite. Et puis également responsable de la coopération internationale de Tara. Bonjour à vous.
Bonjour.
Capitaine, dites-nous d'abord où et comment le navire a passé ce confinement.
Eh bien, en fait, Tara est restée amarrée entre le pont des Invalides et le pont Alexandre III pendant le confinement. Normalement, on aurait dû avoir une réunion aux Nations Unies début juin, l'IUCN à Marseille, et puis en fait, le Covid a fait que l'équipage est resté en mode restreint, c'est-à-dire 4 personnes, et ils ont pu faire énormément de travail, du coup, parce qu'ils ont pu se concentrer sur tout un tas de choses qu'on pouvait pas faire, mais ils sont restés à 4, donc pendant ces 2 mois, sur un loft flottant en plein centre de Paris.
Alors, racontez-nous ce que c'est, Tara. C'est un laboratoire flottant, en fait.
Alors Tara, en fait, c'est un bateau qui est mis à disposition de la science par la fondation Tara Océan, une goélette dont avec 3 buts vraiment. Déjà, c'est la première fondation reconnue d'utilité publique sur l'océan en France, et avec 3 buts majeurs. Le premier, c'est de faire de la recherche fondamentale, donc pour bien comprendre ce qu'on fait, comment ça marche. Ensuite, c'est bien d'amasser la connaissance, mais il faut la diffuser, partager. Donc on a un volet éducatif et de la sensibilisation, et ensuite il y a un troisième volet qui est le plaidoyer.
Et vous avez navigué sur de nombreuses mers. Alors, vous êtes capitaine, il y a d'autres capitaines, mais vous avez navigué sur quelle mer? Vous êtes allé où avec Tara?
Alors, avec Tara, en fait, déjà depuis 2003, elle a fait l'équivalent de 11 tours du monde. Moi, j'ai rejoint la première.
400 000 km, c'est ça?
Ouais, quelque chose comme ça, voilà. Et donc, j'ai rejoint la goélette la première fois en 2011. Et donc, j'ai navigué en Arctique, tout l'Atlantique, Nord, et puis Méditerranée et tout le Pacifique.
Voilà. Et à chaque fois pour observer la santé des eaux de l'océan. Et dernièrement, Romy Antinger, vous avez navigué sur des fleuves. On n'était pas en mer. Racontez-nous.
Oui, entre mai et novembre 2019, c'était la mission microplastique Tara, donc qui avait pour objectif de remonter les fleuves pour remonter
des fleuves européens.
Fleuves européens, 9 des principaux fleuves européens, pour remonter à la source de la pollution plastique, car 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent de terre. Donc c'est bien un problème terrestre, et il est important aujourd'hui, on manque d'informations sur ce qui transite de la terre à la mer. On a mené avant une expédition sur le microplastique en 2014 en Méditerranée sur une mer fermée qui est l'une des mers les plus polluées au monde. Et on a eu cette approche toujours microplastique et microbiodiversité, mais cette fois-ci en faisant la mer, l'estuaire, les fleuves, berges, jusqu'aux villes.
Et vous êtes allé sur la Tamise, sur la Seine, la Loire,
sur Rhin,
le Rhin, oui. Ouais, tous les plus grands fleuves d'Europe, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Racontez-nous comment ça se passe la recherche scientifique sur Tara quand vous naviguez. Qui fait quoi?
Mais en fait, ça dépend vraiment de l'expédition. Si on parle du corail, si on parle du plancton, ou si on parle des microplastiques.
Sur les microplastiques, sur ces fleuves-là, quand vous avez remonté la Tamise ou la Seine, qu'est-ce que vous faisiez?
En fait, déjà, généralement, il y a à peu près 5 à 6 marins pour cet avis scientifique, un ingénieur océano et puis un ou une journaliste. Et ensuite, comment ça marche? Ce qui était spécifique pour la mission microplastique, c'est qu'en fait, on voulait que le Méséromi remontait un peu à la source de la pollution. On pensait au début que le plastique, sous l'influence des UV, et du sel se dégrader en mer, et en fait, il n'en est rien, a priori.
Il reste dans la mer. On retrouve des
On retrouve dans la mer, mais il arrive déjà à l'état dégradé, en fait, dans l'estuaire. Donc, pour ce faire, en fait, on a des filets de surface, des mantas, et puis c'est des filets qui ont une sorte de paire d'ailes avec une grande bouche. On prélève en surface. Donc, avec Tara, en fait, nous, on prélève à l'estuaire, donc, dans l'eau salée. Ensuite, on remonte le fleuve jusqu'à un point d'eau saumâtre, c'est-à-dire là où se mélange l'eau douce et l'eau de mer. Et après, si on peut pas, par exemple, avec Paris, on est coincé avec nos mâts pour les ponts, on envoie soit le Zodiac, l'annexe, soit une voiture pour prélever ce qu'on appelle le point assainité zéro. Mais préalablement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces filets et les scientifiques avaient mis sur tous ces points qui avaient été déjà préparés en amont des mois avant. On met donc 2 mois avant des nasses, donc c'est comme un casier dans lequel on met des moules. Une moule, ça filtre 25 litres d'eau de mer par jour, donc c'est un instrument qui est génial. Et on avait mis en même temps ce qu'on appelle des petites billes de plastique pour voir quel type de micro-organismes colonisaient ces billes de plastique.
Les moules sont vos indiques, en fait, dans cette enquête.
Ils sont
de très bons bio-indicateurs. Et l'idée, c'est de voir comment tout ce qui est additif, tout ce qui est chimique va impacter impacter l'organisme de la moule. Donc alors, c'est l'éco-toxicité.
Justement, on se demande d'où ça vient tout ce plastique. C'est nous qui rejetons du plastique dans les fleuves. Quel est le chemin en fait?
Alors il y a les égouts, il y a effectivement tout ce qui est brassé. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de plastiques qui sont volatiles, nos emballages. Là il suffit de voir sur les berges à côté de Tara tout ce qui est laissé par les gens et qui se retrouve.
C'est des gens qui jettent des emballages en plastique, des sacs plastiques et ça se retrouve dans l'eau.
C'est ça. Oui, c'est charrié. Pas que. Il y a aussi un problème de transport. Il y a pas mal de choses. Ou tout simplement une utilisation inhérente à l'objet. Par exemple, des quais plus ou moins en plastique, comme des pontons flottants qui, à force de raguer, de frotter contre le quai, vont libérer des particules. Mais effectivement, il y a un problème de collecte et puis de déchets, de gestion du déchet.
Il y a un problème avec les filets de pêche des pêcheurs aussi, je crois. Ça forme beaucoup de plastique qui reste, qu'on abandonne dans la mer aussi.
Oui,
ça fait partie des 20 autres pourcents qui sont effectivement des sources plastiques qui proviennent de la mer. Effectivement, c'est qui sont faits de nylon et qui sont une source également, mais avec un travail des pêcheurs et aussi au niveau de l'Union européenne pour améliorer le traçage de ces filets et leur collecte et aussi les points de collecte dans les ports.
On arrive à les rattraper, on les retrouve et on en jette un petit peu moins grâce à ces programmes.
Oui, c'est en train d'être effectivement développé. Et puis il y a une responsabilité aussi des pêcheurs de les ramener ou de trouver même ceux qui ne sont pas les leurs. Et surtout d'avoir cette filière de traitement. Il y a vraiment un enjeu de toute manière sur la manière des déchets et du plastique de collecter et de bien recycler, d'avoir les filières derrière. Et je voulais juste rajouter sur les sources de plastique,
on posait la question. On m'a dit aussi, oui, les vêtements, notre consommation de la mode, oui. Ça fait du plastique dans la mer, racontez-nous.
Oui, alors effectivement, on a du plastique sur nous tous les jours avec les vêtements qu'on porte.
C'est les matières synthétiques, c'est ça, de nos vêtements?
Oui, voilà, c'est ça. C'est le nylon, c'est toutes les fibres synthétiques et ce sont des fibres avec le lavage en
quand
machine.
Quand on les lave en machine, voilà, il y a des petites fibres, des petits bouts de plastique qui partent dans l'eau, c'est ça.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le microplastique primaire qui arrive dans les océans et qui est à l'origine déjà microplastique et qui n'est pas filtré par ces machines à laver et qui se retrouve et qui a du mal aussi à être filtré en station d'épuration et donc qui est une fuite importante de microplastique.
Alors, vos derniers prélèvements, ils datent d'il y a quelques mois, hein, dans ces fleuves. On a eu la crise du coronavirus depuis. On se demande si cette crise, eh bien, elle a pollué encore plus les fleuves, les océans. On pense notamment à l'utilisation de beaucoup de plastique, les masques, les flacons de gel hydroalcoolique. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais est-ce que déjà vous observez des problèmes à cause de cette crise du Covid et du plastique qui a été rejeté massivement dans les eaux des fleuves et des mers?
Alors oui, comme je le disais, nous on a terminé cette mission microplastique en novembre 2019, donc avant la crise.
Ouais.
Mais en revanche, donc les scientifiques des laboratoires partenaires de cette mission sont retournés sur le terrain au mois de juin faire des prélèvements sur berges et sur les plages, justement de ces masques et de ces gants. Ils ont fait 7 des 9 fleuves que nous avions fait. Il en reste 2 à faire et sur les 7 qui ont été étudiés, on a retrouvé masques et
on retrouve
et
des masques
gants
et des gants
systématiquement. Donc avec un protocole européen d'échantillonnage hein, qui est commun et qui est utilisé. Effectivement, ça c'est préoccupant pour la suite d'en retrouver systématiquement puisqu'on peut en déduire que d'autres sont déjà arrivés en mer, si on les retrouve, comme on expliquait que le fleuve est une zone de transit jusqu'à la mer. Effectivement, on attend les résultats finaux des scientifiques qui sont encore en train de terminer ces fleuves, mais en tout cas, visuellement, systématiquement,
vous en avez retrouvé. Et c'est pas du tout biodégradable. Là, on parle par exemple des masques chirurgicaux, on a l'impression qu'ils sont en papier, et en fait non, il y a du plastique aussi hein, dans ces masques.
Non, c'est du polypropylène.
C'est du polypropylène.
Ça fait partie des 3 principales familles de plastique qu'on retrouve dans l'océan, avec le polyéthylène et le polystyrène. Donc,
et ça ne se dégrade pas du tout.
Et ça ne se dégrade pas, non.
Ça met des centaines d'années, voire pas du tout.
Et effectivement, ce que vous disiez, la caractéristique de ces masques qui sont très fins, font qu'ils vont se fragmenter rapidement. Puisqu'ils ont vraiment cette finesse.
Qu'est-ce que vous faites des résultats de vos recherches une fois que vous avez donné vos conclusions sur Tara?
Alors c'est ce que disait Martin, donc vraiment cette mission d'abord d'explorer pour comprendre, parce qu'on a cet écosystème océanique qui est un des derniers lieux d'exploration sur Terre, et on sait encore très peu de choses. Et cette mission, c'est ensuite de partager cette connaissance pour changer. Donc effectivement, c'est auprès de différents publics, comme les décideurs politiques. Nous, on a un statut d'observateur à l'ONU depuis 2015, ce qui nous permet de suivre et de participer aux négociations internationales, notamment sur le changement climatique et la biodiversité. On s'est extrêmement mobilisé lors de la COP21. Donc, ce travail de plaidoyer, ça a commencé à Rio+20. Il a fallu des dizaines d'années pour faire reconnaître le rôle fondamental de l'océan au même titre que les forêts, et que l'océan soit inscrit dans le texte final ratifié à COP21. Et aujourd'hui, l'exemple, c'est ce qui se joue à l'ONU sur le traité qu'on souhaite mettre en place pour la gouvernance de la haute mer. La haute mer, c'est toute la zone hors zone territoriale des États. Et aujourd'hui, aucune règle ne définit l'utilisation. Et c'est une zone de convoitise. Donc des fondations comme nous viennent avec les scientifiques, publient des documents de recommandation. Par exemple, explique les hotspots de biodiversité qu'on peut avoir et l'importance de les préserver et de donner des outils d'aide à la décision, de vraiment donner des faits, un argumentaire scientifique. Et aujourd'hui, plus que jamais, et ça s'est vu pendant la crise sanitaire, c'est que les décideurs politiques sont en demande de faits scientifiques robustes sur lesquels travailler.
Sur le plan international et également sur la scène nationale, pour les élections municipales, vous avez proposé une charte aux candidats.
Oui, c'est...
Combien ont signé ?
Alors c'est
sur les 36 000 communes en France.
Alors il me semble que c'est 24 signataires.
24 signataires, c'est tout ?
Oui.
C'est pas une préoccupation pour les maires que vous avez contactés ?
Si, plusieurs sont venus à bord et ils ont été extrêmement... ils sont venus signer justement cette charte à bord. D'autres sont encore en train de la signer. Et c'est vraiment de mettre au centre cette importance de la gestion de l'eau et de cette pollution. Et si, au contraire, beaucoup, et je pense que de plus en plus, on s'en rend compte de l'importance.
Martin Herthaud, vous êtes à quai sur la scène aujourd'hui. Et c'est une autre mission de Tara, c'est la sensibilisation. Vous accueillez du public en ce moment, et notamment des enfants.
C'est ça. Alors, il y a eu, à cause du Covid, en fait, il y a eu moins de scolaires que prévu.
Mais d'habitude, vous formez des professeurs, vous formez des élèves, c'est ça?
C'est ça. En fait, il y a un volet éducatif, comme on le disait tout à l'heure, là. Il y a à peu près, depuis 10 ans, 4000 professeurs formés par les contenus pédagogiques. Il y a 130 000 élèves qui ont travaillé sur les contenus pédagogiques qu'on a créés. C'est à peu près 2 à 3 salaires dédiés pour ça à la Fondation. Il y a 80 000 enfants qui ont visité le bateau à travers le monde. Et donc, à chaque fois qu'on fait une escale, en fait, les scolaires visitent le bateau, on leur montre comment ça marche, on leur fait traverser le bateau. Et pour le public, en fait, c'est le pont, surtout avec toute l'explication technique du bateau, pourquoi il est unique, et puis le pont arrière où on travaille, où on met à l'eau, et puis on prélève, grosso modo.
Et là, c'est possible, en ce moment même, avec la Covid?
En ce moment, c'est possible, parce que c'est limité, en fait, à 2 groupes de 10, c'est une demi-heure, et puis avec le masque, évidemment, un petit coup de gel hydroalcoolique, c'est devenu maintenant tendance. Et puis, en une demi-heure, on a le temps de faire un tour assez complet du pont. Ouais.
Alors ça, c'est valable jusqu'à dimanche. La goélette, ensuite, ouais, elle va prendre des vacances. Et puis, vous repartirez à l'automne. Est-ce qu'on peut déjà savoir où est-ce que vous repartirez avec Tara?
Alors effectivement, donc il n'y a pas vraiment de vacances, parce qu'un bateau comme ça marche tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, on part le 22 juillet. Donc, il faut d'abord poser les mains sur le quai, la mettre sur le pont, descendre jusqu'au Havre. Et ensuite, dès qu'on arrive à l'Orient, en fait, là, on va sortir le bateau de l'eau et commencer à le préparer pour l'expédition. Donc, la prochaine expédition, c'est encore en construction. Il n'y a rien d'officiel pour le moment. Mais
vous ne voulez pas nous dire où encore?
Eh ben, on peut quand même parler de la destination. En fait, c'est à peu près le départ fin octobre, si le Covid nous le permet. Encore une fois, c'est compliqué de voyager au long cours aujourd'hui. Et ensuite, après, c'est un tour de l'Amérique du Sud, jusqu'en péninsule antarctique, et après remonter tout le courant de Humboldt, donc c'est le ouest du Chili, et ensuite un tour complet de l'Atlantique Sud pour revenir de Cape Town, Afrique du Sud, en passant par l'Afrique de l'Ouest et donc l'Orient.
Un voyage magnifique. Là aussi, vous allez observer le plastique dans la mer, ou il y a d'autres sujets?
Et ben maintenant, en fait, le plastique, ça devient quelque chose de récurrent, donc on l'étudie en permanence, mais pas que. L'idée, en fait, c'est quand même d'étudier tout ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiome marin, donc c'est-à-dire tout l'écosystème planctonique qui est essentiel sur la planète. Il produit quand même plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. Il absorbe un quart du CO2 des émissions anthropiques, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc il a un rôle majeur à jouer sur cette planète, dans l'océan. Donc on continue de cartographier, de prélever, d'essayer de comprendre comment ça marche, quels sont les paramètres qui vont influencer le plus plus le plancton. Aujourd'hui, on sait, on a mis en évidence depuis Terre Océan que c'est la température. Par exemple, comme la température de l'océan augmente, tiens, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, l'idée, c'est de continuer d'étudier ces micro-organismes qui sont essentiels et puis d'en avoir une meilleure compréhension pour modéliser et puis mieux se comporter.
Et l'épidémie va compliquer un petit peu ce voyage, j'imagine. Comment on fait pour faire respecter les gestes barrières à l'intérieur d'une goélette?
On peut pas. Clairement, on peut pas. À 16, sur un bateau de 36 mètres de long par 10, on peut pas. Donc,
la distanciation, elle est compliquée.
C'est
ouais.
ça. Et puis, on doit travailler de manière très proche, en fait, sur le pont, déjà, quand on met les machines à l'eau. Dans un carré, en fait, la table, hein, c'est un peu plus petit que ça. Donc, en fait, du coup, on peut pas respecter les distances physiques. Par contre, on est confinés ensemble. Donc, c'est ça. Ce qui se passe souvent, c'est que, normalement, la règle aujourd'hui, c'est de faire passer un test PCR aux marins avant d'embarquer. Donc, ça, on essaie qu'à l'instant T, ils l'ont pas. Et ensuite, et ben après, ce qui est compliqué, justement, quand on va arriver en Amérique du Sud, s'il y a pas, on espère, de deuxième vague avant qu'on parte, en fait, chaque pays a son protocole différent. Et ce qui est redouté, ce serait d'être mis en quarantaine, par exemple, où là, on peut plus.
Parce que vous avez prévu de faire des escales, hein, quand même, en Amérique du Sud.
On est obligé de faire des escales. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on débarque les prélèvements. Ensuite, on fait des rotations. Hein. L'expé, c'est 2 ans. On peut pas rester 2 ans à bord. Les marins, c'est 3 à 4 mois. Les scientifiques, c'est 1 mois à 2 mois. Donc déjà, il y a des rotations d'équipage, des rotations scientifiques, des conférences, des visites scolaires et publiques, hein, comme on l'a expliqué. Donc on est obligé de faire des escales. Et puis des appros techniques carburant.
Merci capitaine Martin Hertopi, Romy Antinger des expéditions Tara, d'être venu nous rendre visite à France Inter. Donc il reste une semaine, hein, c'est bien ça, pour visiter la goélette à Paris.
C'est ça, jusqu'à dimanche matin.
19 juillet, donc dimanche matin. Avec les enfants, hein, évidemment, on peut venir, ça va les passionner. Il faut qu'ils soient accompagnés. Et il faut s'inscrire quand même avant sur le site océan.taraexpedition.org. On remettra toutes les informations.
Sur Facebook.
Et sur Facebook, sur la page Facebook. Merci à vous deux d'être venus. Et ben, je vous souhaite bon vent, à bientôt.
Merci.